Je crois que justement que de Benabouzeg, il est même encore plus virulent. Il dit qu'il ne faut pas du tout écouter un enseignement de Salvador.
Oui.
Dans une morale juive, morale chrétienne, oui. Hein?
Je n'ai pas ce souvenir en tête. J'ai souvenir d'une critique très dure, oui. Enfin, très, très. Pas surtout parce qu'il dit des choses positives sur Salvador, puis à un moment, il met la vraie ligne de fracture et il l'accuse de quelque chose qui est en fait une réalité. C'est-à-dire que cet argument du judaïsme de la culture, c'est un argument antisémite traditionnel. Donc, effectivement, on voit bien que dans les textes de Salvador, d'où l'hébraïsme, toujours, c'est l'hébraïsme. De la même façon que moi, je trouve qu'on devrait réfléchir, il faudrait qu'il y ait une thèse qui s'écrive là-dessus. Moi, j'ai esquissé ça dans le débat avec Darmstetter à la fin. Je crois qu'il faut faire vraiment très attention à distinguer mosaïsme et prophétisme. Et que quand on revient avec une espèce d'aspect positif du judaïsme dans la pensée du début du XXe siècle, c'était Jaurès ou fin du XIXe, c'est toujours le prophétisme, le prophétisme, le prophétisme. Mais le prophétisme est pris alors comme quelque chose qui échappe, en fait, dans le fond, au judaïsme proprement dit, et échappe au mosaïsme. Et ce déclin, vous le trouvez, à mon avis, dans les prophètes d'Israël, d'Darmstetter. Alors, je ne suis pas assez savant, puis il faudrait que je repasse 3 ans de ma vie là-dessus, je vais passer à autre chose, là. Mais je pense que si on faisait une lecture fine, qui est un disciple de Renan, et il reste de l'antisémitisme de Renan, dans on garde les prophètes, mais on enlève la loi. Et là, je pense, enfin, je l'ai dit à des jeunes, mais je verrai bien vos amis avec plaisir, je pense que quelqu'un devrait consacrer un travail très sérieux à ce moment où comment on va quand même aussi essayer de garder un judaïsme acceptable, on va dire, un peu œcuménique, je dirais, par le prophétisme, alors que la loi, elle est plus gênante. Quoi. Il me semble, c'est une hypothèse en fait, voilà, c'est une hypothèse qui mériterait d'être regardée.
On a aussi on remarque, enfin, au niveau de la société française, on ne sait pas comment appeler les juifs. Est-ce que ils sont de religion mosaïque, ce sont des Israélites. Finalement, on cherche à les définir, mais on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on va prendre comme terme pour les définir.
Exactement. Mais par exemple, Israélite, il y a des gens qui pensent que c'est péjoratif. Il y a des gens qui ne nous disent pas du tout, y compris qu'ils le revendiquaient comme un modèle. Donc c'est exact, vous avez raison, mais c'est tous ces mots sont quand même, selon les contextes, selon les utilisateurs, selon plein d'ambiguïtés. L'israélite français, oui. Moi, je crois que le modèle qui fonctionne un peu, enfin, il me semble, hein, c'est quand même ce modèle de l'affirmation de l'identité, de quelque chose que l'on porte, que les autres ne portent pas et qu'on peut partager avec les autres quand même. Et je pense quand même que le modèle qu'on a trop souvent, moi j'ai beaucoup parlé de la connaître avec Luther et Mondelot et un certain nombre d'autres, je pense que maintenant, historiographiquement, en tout cas, nous sommes d'accord entre nous pour penser que l'abbé Grégoire, enfin, tout ce mouvement était quand même un mouvement qui n'était pas vraiment philosémite. Hein. Alors qu'on nous l'a vendu, moi quand j'étais jeune, on me le vendait comme c'est la belle révolution française qui émancipe les juifs, etc. Bon, la stratégie était très différente. Et même d'hommes, hein, il dit dans les premiers textes qui ont inspiré, donc, il dit un truc, moi, les juifs, oui, c'est un peu comme les comédiens ou les noirs, si on les met dans de bonnes conditions, ils ne seront pas aussi horribles qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça va prendre du temps. Et donc, par exemple, il dit, pour en faire un fonctionnaire, attendons un peu, parce que les juifs, là, bon, pourquoi ne pas en faire des fonctionnaires tout de suite, hein. Alors, combien de temps il faut attendre, je ne sais pas. Mais il faut qu'on s'épouille, quoi.
Honteux de lui-même par le fait que finalement c'est un judaïsme qui est un peu traumatisé entre la question de Napoléon et puis l'émancipation quelques dizaines d'années avant, et c'est un judaïsme qui ne s'est pas trop positionné, qui doute lui-même de son identité. On lui reproche d'être apatride, finalement il y a tellement de flux qui viennent dans ce pays France entre l'Espagne, l'Allemagne, etc. Et puis c'est un judaïsme qui ne produit pas grand-chose. C'est-à-dire quand on n'a pas des grands penseurs juifs qui vont. Je dis peut-être qu'on est dans le métis, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt piloté par l'Allemagne, par la Russie, enfin, c'est des gros pays qui produisent, alors qu'en France, on ne produit pas grand-chose.
Il y a un penseur juif qui s'appelle Jacob Tobbs, qui est venu en France, qui a dit... Oh,
ils étudient Heidegger. Carl Schmitt, maintenant. Ma fille préparait la grecque. Premier cours, Carl Schmitt, c'est un nazi, quand même. Sans même préciser que c'est un nazi. Il y a 2 ans. Hein. Ils étudient Husserl. Moi, j'ai pas pu, j'étais aux archives Husserl pour des années de recherche. Pas intégré parce que je n'étais pas germaniste. Donc, c'est la germanolatrie. C'est un sujet, quand même. Mais on a des penseurs. Alors, c'est Jacques Octobre qui dit, mais c'est curieux, parce que moi, je viens en France, j'aimerais bien écouter Bergson, Malebranche, Descartes, c'est formidable, tout ça. Mais eux, ils nous parlent. La grecque, quand je l'ai passé, c'était de domination hegelienne. Bernard Bourgeois, c'était Hegel. Il fallait qu'on parle de Hegel pour être agrégé. Donc, on a premier à parler de Hegel. Bon, très bien. Un peu de Schelling, un petit peu de Fichte, de Filonenko. Bon, je suis parti. Mais quand même, c'est un sujet. Donc, voilà le problème que vous posez. Parce que, inversement, des gens qui sont en Allemagne, avec cette puissance, mais qui ne peuvent pas, en Allemagne, être professeurs d'université, le peuvent en France très tôt. Vous entrez à l'école polytechnique. Vous devenez ministre de la République, je le redis, sous la Seconde République. Combien de temps les Allemands ? Le nazi n'est pas français, il est allemand. On a des fachos. On a des gens qui aiment les nazis, visiblement, on en a vu là. Mais non, c'est pas ça la France. Voilà. Alors vous dites, il n'y a pas de penseurs français. Ben voilà. Pourquoi la France ne s'intéresse pas à ces penseurs ? Parce que franchement, il en vaut d'autres. Hein. Moi, j'ai fait ça parce que... Mais que d'autres y aillent ? Et je peux vous en trouver 10. Mais j'ai déjà fait ça. Il ne connaissait pas Buisson. C'est le type qui a fait l'instruction, qui a fait la laïcité en France. Il a fallu... C'est l'histoire juive que nous pratiquons là. L'histoire de ceux que l'on veut oublier, que l'on veut raturer, que l'on veut biffer. Alors à un moment, il ne faut pas croire uniquement les anthologies, les manuels, parce qu'on nous dit l'histoire, c'est comme ça. Est arrivé Descartes, puis est arrivé machin. Non mais... Et celui dont vous ne parlez plus, et celui qui a disparu, et celui qui était... Et ça, c'est très intéressant sur la question française. Pourquoi, à ce point-là, c'est vrai en philosophie. C'est vrai en philosophie. Je relisais des textes de Lévinas. Lévinas, quand il arrive, parce qu'il y a eu un colloque Brunswick, regardez sur l'assimilation. Lévinas critique très fort l'assimilation française, l'assimilation générale, d'ailleurs. Comme Scholem, comme etc. Souvenez-vous les textes de Scholem sur ce qui se passe. Mais il dit, Brunswick, qui est le modèle de ce juif français... qui ne revendiquait pas son judaïsme tous les matins, qui est comme les deux grands penseurs juifs français de l'entre-deux-guerres, c'est Bergson et Brunswick, c'est deux juifs. Vous n'avez pas besoin tous les matins de dire on est juif. Mais enfin, le fait est que les deux grands philosophes français qui ont formé les Lévi-Strauss, les Merleau-Ponty, etc., c'est Brunswick et Bergson, sont deux juifs. Et Brunswick, qui a été attaqué par Paul Nizan, par tous les types, là, l'engagement, la théorie de l'engagement, qui ne sont pas engagés du tout pendant la guerre, hein, ni Merleau, ni Sartre, on les a vus prendre entrer dans la résistance, rien. Mais ils nous ont fascinés avec eux. Et ils se permettent de dire à Brunswick, donc Cécile Brunswick était secrétaire d'État du Front Populaire. Léon Brunswick est allé, et n'a jamais renié son judaïsme pendant la guerre, il est mort seul et séparé de sa femme. Et Emmanuel Lévinas lui rend visite en 1932, et il dit, j'ai vu Brunswick malheureux. Parce que Nizan et les autres disaient, ben, c'est un bourgeois français. Il s'est assimilé, il s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Et c'est Lévinas qui a écrit un texte pour dire, non, moi je suis allé en 32 et j'ai vu. Et il va plus loin parce que c'est le thème de mon livre. Il dit, quand vous allez partir, vous allez faire votre alia, vous allez aller en Israël, parce que nous en sommes là. Amenez à vos chaussures un peu de cette poussière qui s'appelle Brunswick. Car l'Occident a produit 2 choses. Il a produit la Shoah, ok, et il a produit Léon Brunswick. C'est un texte de Lévinas. Il le met au niveau. Il dit, il y a la Shoah, il y a Brunswick. La quintessence de l'esprit rationnel et de civilisation. L'idéalisme le plus pur. Qui va donner quoi ? Qui est élève de Brunswick ? Qui croit à la rationalité ? Alors, mon maître Verlan, mais Jean Cavaillès. Les résistants jusqu'au bout, qui eux n'ont pas eu besoin de faire des théories de l'engagement, mais se sont sacrifiés pour des idées, parce que c'était des idéalistes. Et l'idéalisme, il a sa place dans l'histoire. Il a sa place dans l'histoire. Donc c'est un texte incroyable et où Lévinas dit qu'il y a de l'or dans cette poussière. Et il parle des juifs français d'avant-guerre. Dans le même texte, donc tout ça vous l'avez dans Difficile Liberté, dans le même texte, Lévinas dit, j'arrive en France. J'arrive en France. Pourquoi j'arrive en France ? Comme le père de Moscovici, Serge Moscovici. Comme... Parce que c'est le pays des droits de l'homme. Parce qu'on peut penser ici. Parce qu'on peut parler. Parce que c'est le pays de, alors, Diderot, Rousseau, etc., etc. Et il dit, cet attachement à la France, qui est un attachement de l'esprit, je le retrouve dans les paysages, je le retrouve dans les rues, je le retrouve dans... Donc je m'attache à ce pays. Bon. Donc comment on n'aime pas la France? Bien sûr qu'on aime la France. On aime la France parce que, contrairement à l'Allemagne, par exemple, elle nous a permis de faire nos études, de devenir professeur, de devenir médecin, de devenir ministre. Voilà. Et elle ne nous a pas contraints à chaque fois à faire des actes d'allégeance, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Donc ça, c'est une curiosité de l'histoire des idées, c'est une curiosité du rapport de la France à elle-même, qui vaut pour les Juifs français, qui se connaissent si mal. Qu'est-ce que... Nicolas parlait du travail que j'essaye de faire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire très simplement. Je lis La République des Hébreux, je lis très mal l'anglais. Alors c'est un pinceau pour moi. Je suis là, il y a 150 pages, ça me prend des jours et des jours. Je suis à peu près sûr de faire des contresens tout le temps. Enfin, je suis malheureux. Je vais voir le président d'une grande maison d'édition, je lui dis, écoute, il y a un livre dont on parle dans le monde entier, sauf en France. Moi, je suis député européen, je les entends, les débats sur les origines chrétiennes de l'Europe. Il y a un type qui vient d'écrire un livre extraordinaire qui montre la place du judaïsme. Non, parce que quand même, moi, je me suis soupé, ça, de ces gens qui étaient des origines chrétiennes. Ils disent même pas judéo-chrétiens, certains faisaient cet effort. Ils disent, non, il n'y a plus de juifs. Bon, de juifs, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus personne. Il y a les chrétiens, voilà. C'est pas une rigolade, ces affaires-là, quand vous mettez ça dans un texte constitutionnel européen. Souvenez-vous de la discussion. Donc je dis à ce président de maison d'édition très puissant, je lui dis, écoutez, mon ami, il faudrait peut-être quand même traduire ce livre, c'est 200 pages. Oh, vous avez parfaitement raison. Je réponds plus au téléphone. Je croise un milliardaire dans le train, qui vient me voir, un milliardaire juif. Bon, qui... Ah, monsieur le ministre, ah, pas de chance, j'avais le Eric Nelson dans le cartable. Je dis, mes chers amis, vous voulez être utile, etc., faudrait aider à traduire. 5 000 euros, parce que c'est ça, on a besoin d'une subvention de 5 000 ou 10 000 euros, qu'on ne trouve pas. Oh, formidable, j'arrive à vendre Nelson, moi, donc je lui raconte Nelson, 5 minutes, l'importance du truc, etc. Je vous donne mon numéro, vous m'appelez. Il m'a donné un faux numéro. Jamais plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte, donc je commence à approfondir, et je me rends compte que les plus grands livres d'historiens sur le judaïsme français, parce que plus de 50%, comme dit Lisa Lef, de la production sur le judaïsme français, je ne parle pas du judaïsme belge ou batave ou ce que vous voulez, français, mais pas traduit. Ça ne nous intéresse pas. En fait, là, on a eu toutes les discussions sur Napoléon, la mise en place du consistoire, des consistoires. C'est un livre formidable, que Pierre Birnbaum et des tas d'autres ont lu, utilisé. Personne n'a jamais traduit le livre de Phyllis Cohen-Albert. Donc là, je vous en fais une série qui va sortir sur 3-4 ans, on en fait 3 par an, pour rattraper les 20 dernières années ou 30 dernières années d'historiographie. D'ailleurs, le CNL incroyable me demande chaque fois, ça va vous intéresser, Catherine, il me dit, mais pourquoi vous traduisez si tardivement ces livres? Parce que maintenant, il faut être dans l'actualité, il faut traduire le livre il y a 2 ans, ça c'est important. Mais un livre d'il y a 25 ans, si c'est une somme, les gens vous disent, mais pourquoi vous traduisez ça? Et sur le judaïsme français, alors, vous allez voir, on a de quoi, hein, il y a plein de livres qui vont sortir, qui sont, on en a un sur l'Alliance religieuse universelle, Israélite universelle de Lisa Lef, on en a, enfin, bref, on a tout un programme de travail lié à votre question, hein, je ne réponds pas ailleurs, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette méconnaissance, ce désintérêt pour soi-même ou pour ceux qui ont travaillé sur nous? C'est d'une grossièreté. Ouais. Moi, je suis affreusement gêné vis-à-vis de Nelson et je vous remercie de l'accueillir. Il a 2 séminaires, il vient, il n'a pas une émission. C'est le plus grand prof d'Harvard aujourd'hui. Il a travaillé sur les Hébreux. Tout le monde dit, wow. Je n'arrivais pas à le faire traduire. Donc, du coup, on s'est dit, on le fait nous-mêmes. Coup de chance, je parle de ça à une copine il y a 40 ans, hein, qui est Périne Simon-Anoum, au détour d'une rue en marchant dans Paris, quoi, parce que je la croise dans la rue. Et elle me dit, non, c'est pas vrai. Viens, mets ton costard comme tu sais faire. On part à la Fondation du judaïsme. Donc, j'enlève mon jean, je mets mon costard, comme aujourd'hui. On va à la Fondation du judaïsme, je vois les... Et je leur raconte ce que je vous raconte. Et là, ils disent, bon, écoutez, on va vous subventionner. C'est subventionné. Parce que sinon, on n'aurait jamais pu... Une traduction, aujourd'hui, ça coûte... Alors, on a le CNL plus des subventions.
Alors, je crois que Catherine Chalier...
Non, c'était juste... Je voulais vous remarquer à propos de ce que vous avez dit sur les menaces, à propos de la suite, et que je partage
ce qu'il a dit. Je me souviens bien de ce texte. Mais ce que je voulais dire, c'est que après la Shoah... Ce qu'il dit, c'est aux Juifs, il faut vous mettre à étudier. Parce que si vous n'étudiez pas les textes, vous ne pourrez pas continuer. Et donc, là, il y a quand même une autre façon de penser le judaïsme, ce qui n'enlève rien du tout à la grandeur de Braunschweig et des autres. Mais pour nous qui venons après, il faut étudier. Si nous n'étudions pas, parce que vous avez fait allusion aux paysages qu'il aimait, mais il dit dans ses textes, mais ces paysages, ils sont chrétiens. Les églises, etc., tout est chrétien dans ces paysages. Et donc, vous avez besoin d'ouvrir vos textes et d'étudier.
Non, c'est tout à fait vrai. C'est surtout le retour, y compris avec les colloques, hein, la même, l'air, etc. Mais l'idée de l'écu qui n'était pas le cas, c'est évident, de Bertrand, de Braunschweig, etc. Là, il y a une différence qui est notoire et qui est liée à ce moment d'histoire. C'est-à-dire que ça ne suffit plus. Et donc, on peut disparaître. Et donc, il faut retrouver cette identité juive à travers les textes religieux lui-même, d'ailleurs. En fait, le premier, moi, vous connaissez parfaitement tout ça, mais je repensais à ça récemment. Le premier Lévinas, c'est Husserl et Heidegger. C'est les premiers textes, c'est la théorie de l'intuition. Puis en découvrant, et moi j'ai commencé, parce que j'étais phénoménologue, comme on dit autrefois, j'ai commencé à lire Lévinas par ces textes-là, pas par les textes juifs. Et il y a un trajet qui est aussi le sien entre les années 30, ce que vous dites, et évidemment après la Shoah. Qu'il va partager, je pense, enfin il me semble, avec quand même d'autres juifs de France ou français. C'est-à-dire, cette idée-là, c'est l'idée, me semble-t-il, qui parcourt quand même les colloques des intellectuels juifs de langue française. C'est tout ce moment très riche pour nous, dans le fond. Très riche. Là, on hérite de quelque chose de très riche, dont je pense, c'est la fin du livre, je vous le disais tout à l'heure, quand je dis c'est un judaïsme politique, aussi peut-être je n'aurai pas votre accord quand j'ai lu des textes, vous qui vont dans ce sens-là. Je pense que Lévinas est trop traité forme d'éthique, moraline parfois, etc. Je pense que c'est un penseur politique. Et je pense la même chose de Néer, etc. Donc je pense que le judaïsme politique, le judaïsme qui court comme ça, jusqu'à même Salonskis, hein, d'être vivant encore aujourd'hui, si vous regardez bien, c'est très politique. Et je pourrais dire jusqu'à vous, parce que votre insurgé, Moïse, votre insurgé, est finalement assez politique.
Merci.
Justement.
C'est politique,
mais
contrairement au slogan en vigueur, tout n'est pas politique.
Non, mais c'est précisément le champ de fait. C'est l'inscription d'un impolitique dans le politique qui fait la voix de politique. C'est pour ça aussi qu'on en parle. C'est la question de. Ça, c'est une question très profonde. Est-ce que la politique, c'est la politique des politiciens? Est-ce que la politique, c'est la politique d'immanence, machiavélienne, si vous voulez? Ou est-ce qu'il y a un retour aussi sur cette question du théologico-politique? Et donc, quelque chose qui n'est pas politique, mais qui permet de faire la politique. Dans cette perspective, parce que bon, Lévinas est très influencé évidemment par Rosenzweig, c'est après la guerre de 14-18, c'est pas que la Shoah. Qu'est-ce qui se passe après la guerre de 14-18? Vous avez notre Paul Valéry qui dit savoir et devoir, vous êtes suspect, c'est pas rien ce texte quand même, les civilisations sont mortelles, savoir et devoir, vous êtes suspect, il faut le relire ce texte pour voir la charge de Paul Valéry par rapport à la pensée libérale et la pensée Aufklärung, etc. Et puis en face, vous avez évidemment Rosenzweig. Chez les protestants, chez les chrétiens, vous avez Karl Barth. Et tout d'un coup, l'épître aux Romains, le commentaire, vous avez l'idée de l'altérité radicale. C'est-à-dire de dire, là, vous voyez, ces millions de morts, c'est quand on croit, et ça précède Adorno et compagnie, hein, c'est quand on croit que l'immanentisme, le progrès scientifique, enfin, bon, tout ce que vous voulez, voilà, ça. Non, nous avons besoin d'une altérité radicale. Et dans le fond, alors, après la Shoah, c'est encore plus. Il recueille cet héritage, d'ailleurs, à ce moment-là, et il le développe. Là, je suis d'accord avec vous, c'est pas le même horizon, c'est pas le même temps de pensée.
Oui. Non, mais écoutez, je vais vous poser une question un peu bête parce que je connais très mal le corpus que vous avez traversé, exposé. Bon, c'est le nom de Spinoza. Parce que bon, Spinoza, c'est aussi un des premiers grands théoriciens de la République des Hébreux. C'est le titre d'un des chapitres du traité théologico-politique. Bon, en rédigeant mon livre, vous avez la gentillesse de rappeler, là, bon, j'ai relu donc le TTP, le traité théologico-politique, et on voit que c'est d'une extrême puissance. Hein, c'est un texte remarquable où il dit à la fois que l'alliance du Sinaï s'est opérée comme dans une démocratie, et en même temps, ça fonde une théocratie. Donc là, il y a une sorte d'alliance des deux qui est tout à fait extraordinaire. Puis il essaie de critiquer la position de Moïse en disant, il a essayé d'occuper la place de Dieu, mais il n'est pas arrivé. Donc il y a une une critique intéressante hein, d'une dérive théocratique au sens vulgaire du terme. Et puis il termine en disant, mais finalement, la grande œuvre de Moïse, c'est la séparation des pouvoirs. C'est Moïse, avant de mourir, qui distribue le pouvoir politico-militaire à Josué, le pouvoir spirituel à Aaron. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Bon, ça m'a fait dire à plusieurs reprises dans différentes émissions ou conférences que bon, les gens qui veulent supprimer la division des pouvoirs, par exemple en rognant les ailes d'une cour suprême dans un pays que vous connaissez bien, bah, ils trahissent la loi de Moïse. Du moins tel que Spinoza l'interprète. Alors, est-ce que Spinoza, est-ce que cette théorie de la République des Hébreux, qui est très fine, très complexe, est-ce qu'elle travaille ce corpus-là? Est-ce que ces judéo-républicains lisent Spinoza? Est-ce qu'ils le commentent? Est-ce qu'ils s'en inspirent? Parce que Spinoza, c'est un petit peu l'auteur maudit dans toute cette toute la conjoncture philosophique.
C'est le champ de Spinoza, enfin maudit, on parle de lui. Hein,
oui, mais il y a un refoulement.
En tout cas, pour ces auteurs-là, il y a une gêne. Il y a une gêne qu'on entend un peu, d'ailleurs, dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux héritages spinozistes. Vous avez un héritage très off-clérou, quoi, séparation. Qui n'est pas l'héritage des Juifs, parce que les Juifs, qu'est-ce qu'on doit séparer? C'est très compliqué. Et donc vous avez d'ailleurs, il pourrait vous en parler, très bon là-dessus, ce qu'on appelle un héritage erastien qu'on trouve dans la Révolution française, qu'on trouve dans un texte de Leroux qui s'appelle « Une religion nationale » et où dit, qu'est-ce que ça veut dire ça de dire « l'État est neutre » Ce qu'on trouve chez les Jaurès, ça ne veut rien dire. L'État, il va décider de l'éducation, donc il a des valeurs. Donc il n'est pas neutre. D'ailleurs, en réalité, Jules Ferry ne dit pas qu'il est neutre. Il dit qu'il est neutre confessionnellement. Il n'est pas neutre religieusement. Donc c'est la question de dire et d'assumer, est-ce que l'État, il porte un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel, c'est l'État. Mais il est neutre, il n'a pas d'idée, il ne sait rien, il n'a pas de valeur. Mais ça n'existe pas. L'État, tout État, dès lors qu'il va faire un certain nombre de choix qui concernent la vie en commun, a un certain nombre de valeurs. Donc après, il peut respecter des différentes confessions, respecter de la liberté d'opinion, il peut respecter, etc. Mais en tout cas, il doit assumer. D'ailleurs, vous savez, Jaurès disait, il n'y a que le néant qui est neutre. Un État ne peut pas être neutre. Il peut pas... Alors, pourquoi je vous dis ça vis-à-vis de Spinoza? C'est que, en fait, il y a des gens qui se revendiquent de Spinoza dans la tradition républicaine, juive et au-delà de juif, mais ils se lisent, dans l'idée que, en réalité, Spinoza porte l'idée d'un État qui doit être élever le civil au niveau du religieux, voilà, qui est pour eux le modèle, bon, que vous avez dans cette idée de religion nationale qui existe dès la Révolution française et qui est reprise par une tradition qui va perdre, en fait. Cette tradition va perdre au moment de la séparation des Églises et de l'État et puis dans le corpus républicain, d'une certaine façon. En tout cas, elle va pas s'afficher comme ça. Moi, par exemple, je suis accusé de faire ça, de religion laïque. Donc ça, ce Spinoza, oui, il est plutôt repris comme un modèle subsistant du théologico-politique. Et puis il y a des gens qui interprètent Spinoza comme l'homme de la modernité parce qu'il a justement séparé l'État. Donc en fait, il y a un embarras, il y a plusieurs interprétations de Spinoza. C'est un peu le problème des grands auteurs. Sur l'éthique, c'est plus compliqué, mais sur le traité, enfin, il me semble, il y a quand même plusieurs lectures possibles, comme des rapports de Spinoza. Et, vous avez lu le livre, je crois, c'est Jovel, sur Spinoza et les hérétiques. Exactement. Et donc là, vous voyez comment aussi, dans cette époque, tout ça est pris dans des lectures différentes, des contextualisations. Mais pour vous répondre, en fait, mais ça, vous l'avez en culture philosophique simple, il est le maître des deux traditions opposées. De gens qui veulent dire on ne peut pas séparer le théologique du politique, et il ne faut pas le séparer, y compris comme clôture, ce qui a été dit tout à l'heure, comme altérité radicale, puis d'autres qui disent non, ça n'a rien à voir, faites votre religion chez vous, la religion privée. Il y a toute la lecture de Spinoza tolérant. Écoutez, hein, mettez votre coupa chez vous, mon vieux, mangez comme vous voulez, mais ne nous emmerdez pas dans l'espace public. C'est ça. Plein de gens qui se servent de Spinoza pour ça. Donc vous avez vraiment les deux héritages. Moi, je trouve qu'il ne... Enfin, il parle un peu de Spinoza, mais pas tellement. Hein.
Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les rabbins n'ont pas été à la hauteur?
Ça va. Excusez-moi.
Ça va?
Ouais.
Ça va bien?
Oui. Excusez-moi.
Les rabbins n'ont pas été... Ils n'ont pas été à la hauteur, finalement. Ils n'ont peut-être pas essayé de prendre des initiatives par rapport justement à toutes ces valeurs.
Moi, je pense quand même... moi, j'ai un malaise, si vous voulez, par rapport à ça. connaissez d'ailleurs, vous, Joël, particulièrement, c'est qu'il est un peu comme moi, le Salvador. Il n'est pas... D'où d'ailleurs sa critique des rabbins, vous voyez. Il n'est pas... Il dit au début, mais je ne connais pas l'hébreu, mais je ne suis pas dedans, mais je ne suis pas... Donc, il faut qu'il fasse un... Vous voyez. Le rabbin, lui, se dit, bah, j'ai une communauté à faire vivre, j'ai la tradition, j'ai le culte, j'ai etc., 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 j'ai l'étude. Bon. Il n'est pas là-dedans. C'est quand même un peu... Il a vraiment une autre trajectoire. C'est ce médecin qui devient érudit, mais qui n'est pas dans la communauté. D'ailleurs, il est enterré au cimetière protestant du Vigan. Donc, il a toujours été marginal. Il est en dehors de tout, d'une certaine façon. Il trace son sillon, il nous explique la loi de Moïse, mais il n'est pas dans la communauté. Alors, là-dessus, sur cette question très intéressante, parce que j'ai eu le débat du franco-judaïsme, il y a une erreur. Parce que j'ai trouvé, et ça, si on le trouve dans les trucs de la BNF, à l'époque de cet œcuménisme juif, on va dire, où ils veulent réconcilier toutes les religions, vous avez un type qui a beaucoup compté, qui s'appelle Hippolyte Rodrigue, qui avait écrit les trois filles de la Bible, les trois sœurs, chez 1865. Et tout le monde dit, voilà un modèle du judéo, du franco-judaïsme, il passe sous la table, en fait, ils veulent mettre des ordres dans les synagogues, ils s'habillent comme des curés, bon, etc. Et ce monsieur, parce que c'est des réformateurs, c'est toujours le débat réformateur orthodoxe, en est un. En réalité, sa petite fille en 1890, c'est vraiment la grande famille des Rodriguez, hein, veut entrer dans une famille catholique, et il parle d'apostasie et il lui ferme la porte de la maison. Et donc il y a les papiers de famille à la BNF qu'on peut trouver parce qu'ils les ont même numérisés, qui est un texte absolument étonnant et qui a changé d'ailleurs le point de vue. J'ai vu ça à un séminaire où je suis allé de jeunes historiens qui ne voyaient pas parce qu'ils étaient sur cette idée du franco-judaïsme. Donc là on a un type qui est très moderne, qui n'est pas orthodoxe, qui est dans le mouvement maçonnique en réalité, et qui est dans cette alliance universelle, et qui pourtant, en 1890, dit, et alors c'est extraordinaire, parce qu'il écrit à sa petite fille, donc il lui dit, mais ça ne cessera jamais, il lui dit des choses d'une simplicité, d'une beauté, tu seras toujours à table, tu ne seras pas comme eux, et ils auront toujours l'idée que c'est nous qui avons tué le, etc. Et puis, c'est extraordinaire, il lui décrit l'antisémitisme et les difficultés auxquelles elle va avoir lieu dans une famille, et on est en 1890. Donc, bien longtemps après. Donc là aussi, c'est un éclairage sur le franco-judaïsme qui trouble un peu l'idée qu'on en a généralement.
Et l'affaire Dreyfus n'a pas d'impact, ne va pas secouer le...
Je pense, c'est pour ça que j'attends le travail de Milo Lévy-Brull. Bien sûr que c'est très très important, l'affaire Dreyfus, parce que... Ils ont jamais... C'est quand même un truc que je trouve assez pénible quand aujourd'hui on redécouvre l'antisémitisme. Franchement, des fois on se demande si on est complètement idiot, quoi. Moi, j'ai été élevé par une enfant cachée. Ma grand-mère me racontait qu'on cassait les vitres de sa maison. Là, on découvre l'antisémitisme. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Ça a toujours été. Et ça ne s'arrête pas. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est... Alors, l'affaire Dreyfus, contrairement à ce qu'a dit cette historiographie, Marus, Madame Arendt, en réalité, les Juifs de France prennent conscience très tôt du problème. Il y a un choix stratégique qui est fait, qui est de dire, on n'est pas... Donc le rabbin, le grand rabbin, Zadok Kahn, Rothschild, les gens très avancés de l'Alliance israélite universelle, dire, bon, le mieux, c'est qu'on agisse au nom de la République qu'au nom de la communauté juive. Ça, c'est un choix politique, stratégique, qu'on peut discuter. Moi, je le soutiens. Et dire... Étant donné la façon dont nos ennemis nous isolent et nous assignent à résidence, ils attendent que ça. L'argent des Rothschild, le pouvoir dans les médias, enfin, on connaît la musique. Hein. Donc, on monte ce comité secret qui se réunit très tôt et on fait un travail pour impliquer des gens qui ne sont pas juifs, Zola, Jaurès, etc., Jaurès, Kestner, etc. Et que la question de Dreyfus devienne la question de la République française. Je trouve même, pour vous dire la vérité, que c'est un modèle de réussite. Parce qu'ils ont gagné. Et le grand problème qu'on a avec Braunschweig, d'ailleurs, que dit Lévinas ? Il dit, quand je le vois, je me dis, dans le fond, cette génération, elle a été troublée, parce qu'on gagne quand même la guerre de 14-18, et ils étaient sortis victorieux, entre guillemets, c'est pas une victoire, mais enfin, quand même, de l'affaire Dreyfus, positive. Donc, il parle, à un moment, c'est cette question de l'optimisme. Il y a un optimisme des Juifs de France, heureux comme un Juif en France.
Il m'est arrivé de voir Léon Braunschweig malheureux.
Oui, ben c'est ça. Je l'ai lisé pour Catherine, parce que ce texte m'a amené les larmes aux yeux. Je vais vous dire pourquoi. Il y a tellement d'injures faites à Braunschweig et aux Juifs français, que ce soit Lévinas, peu d'années après son arrivée en France, qui va, oui, Braunschweig avait un hôtel particulier, oui, Braunschweig était un juif qui avait de l'argent, c'est vrai, oui, Braunschweig était... Il va chez Braunschweig, et face à ces types qui sont quand même, tiennent des propos. Vous savez, dans La guerre a eu lieu de Merleau-Ponty, il pose quand même la question, comment l'antisémitisme est-il possible ? C'est la grande question philosophique. Donc, il voit le problème. Il dit, je suis place de la contrescarpe, et je vois les cars qui emmènent les enfants. Bon, très bien. Donc, il est quand même imprégné de ça. Mais fondamentalement, Ils n'ont rien fait. Donc, on ne peut pas faire la leçon aux autres. Qu'est-ce qu'il dit, par contre ? C'est le premier numéro des temps modernes. Hein. C'est co-signé avec Sartre. Hein. Ce n'est pas un petit texte dont on parle. 45. Il dit, l'idéalisme français qu'ancien, puisque c'était ça, Braunschweig, dans la réalité, il n'a pas vu la catastrophe arriver. D'accord ? Et comme... Alors, 32, j'ai vu Braunschweig. Il n'a... Mais quoi ? Il allait arrêter la catastrophe tout seul ? Enfin... Donc, ils n'ont pas vu. T'es sûr qu'ils n'ont pas vu, déjà ? On pourrait se poser la question. Ils n'ont pas vu la catastrophe arriver. Ne pas voir, c'est être complice. Est-ce que c'est ça ? Vous ne le voyez pas. C'est une forme de complicité dans l'esprit de M. Sartre. Bon. Parce que, dans le fond, tu ne voulais pas voir. Et ne voulant pas voir, tu as laissé faire. Et qu'est-ce que tu as fait, toi ? Et que c'est quand même lui, le juif, qui est obligé de partir. C'est lui, le juif, qui va mourir. Braunschweig, séparé de sa femme. C'est lui qui va perdre des gens de sa famille. Donc je trouve, moi je suis un disciple de Merleau-Ponty, je suis un admirateur, mais je trouve que cette question doit être posée philosophiquement par nous. Dire, qu'est-ce que c'est cette histoire que vous écrivez là ? C'est une histoire troublante quand même, si on y réfléchit bien. Voilà des gens qui viennent, comme pour s'acheter une virginité, qui n'ont rien fait pendant la guerre. Ils ont fait leur thèse, ce sont des thèses intéressantes, je n'ai pas de problème avec ça. Ils avaient le droit de rien faire aussi. Mais alors qu'ils ne fassent pas la leçon aux autres, et qu'ils ne disent pas d'un juif qu'il est complice de la Shoah. Ça, c'est pas possible. Ce ne sont pas les victimes, il y a ça chez Hannah Arendt aussi, ce ne sont pas les victimes qui sont quand même responsables à la place des bourreaux. Bon. Donc on peut faire beaucoup de reproches aux juifs, je ne sais pas, de difficultés, à tout être humain.
C'est pas tout à fait ce qu'elle dit.
Non, mais enfin, il y a des textes qui sont quand même un peu déplaisants, et je crois d'ailleurs qu'ils ont été... relevé comme tel par des historiens comme Yerushalmi et quelques autres. Et moi, je dois dire qu'il y a des textes qui vont... Et en particulier, le texte sur l'antisémitisme.
Non. Des bourgeois juifs qui ont trahi le peuple juif. Bon, qu'elle invente peut-être, elle s'invente.
Mais c'est quoi le bourgeois juif ? C'est Braunschweig. C'est quoi le bourgeois juif ? C'est quoi cette... Non, mais Nicolas, c'est un sujet majeur quand même. L'historiographie d'Hannah Arendt, je pense, et moi j'aime beaucoup Hannah Arendt sur d'autres questions, je pense quand même que ses écrits, et en particulier ses écrits sur le judaïsme français, enfin, je crois que maintenant plus personne ne le conteste, sont truffés d'erreurs historiques. C'est elle qui dit que les juifs ne s'organisent pas. Il y a quand même 4 livres qui sont sortis de nos historiens, nous, pour montrer que dès 1894, il y a ce... C'est elle qui dit, il y a quand même 2 thèses, que l'Union... comment elle s'appelait cette banque
catholique ?
Oui, l'Union Générale. C'est effectivement, donc c'est la thèse des antisémites, c'est une manœuvre de la finance juive qui va faire perdre... Elle reprend des thèmes qui sont quand même absolument... Enfin, à mon avis, invraisemblables, et qui ont des conséquences quand même, si je peux me permettre, assez lourdes. Donc, mais je crois quand même, ça c'est aussi un truc qui est intéressant. Je pense, ce que dit d'ailleurs les Aleph, je pense que c'est important, alors ce travail est quand même se fait depuis 20 ans, 30 ans, mais je pense que c'est important que le judaïsme français ne soit pas écrit par le judaïsme allemand ou par le judaïsme... Il faut que les juifs français travaillent sur leur propre judaïsme parce que c'est une histoire qui est singulière. Les juifs allemands le savaient, ils venaient s'abriter en France. Hein. Et moi, je viens d'une famille juive alsacienne, je peux vous dire qu'on sait la différence entre le judaïsme allemand et le judaïsme français. Et Moi, mon grand-père était grand rabbin de Mulhouse. Hein. Il n'a jamais voulu, jamais voulu s'exprimer de 70 hein, en allemand. Et ce n'était pas facile. Et parce que ce n'est pas la même histoire. Et vous parliez tout à l'heure des intellectuels, des grands esprits qui sont en France au XIXe siècle. Mais beaucoup venaient d'Allemagne. Beaucoup venaient d'Allemagne. C'est-à-dire que en réalité, on a toute une école, ce qu'on appelle la science, c'est notre travaux de gens qui étaient obligés et qu'on accueillait en France, hein, qui sont des érudits, et qui viennent de la science du judaïsme allemand en France, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de poste en Allemagne. Et donc, on a là des travaux sur la Palestine, etc., qui sont tout à fait intéressants. Donc, on a quand même une histoire, il me semble, qui est assez forte.
Si je comprends bien le modèle du judéo-républicanisme, hein, pour reprendre votre concept concret d'une certaine manière, qui s'achève par une victoire, vous venez de le dire, c'est l'action des Juifs, disons, sous l'affaire Dreyfus, enfin pendant l'affaire Dreyfus, qui donc. Alors, la question est de savoir est-ce que c'est le judéo-républicanisme ou le franco-républicanisme qui est en jeu dans l'action des Juifs pendant l'affaire Dreyfus. Il y a plusieurs figures, etc., contradictoires hein, pendant cette crise. Et est-ce que si on inverse les choses et qu'on dise qu'est-ce que la France ou le judaïsme français peut apporter au judaïsme en général, est-ce que ce modèle est un modèle, au fond, de ce qui nous occupe depuis pas mal de mois, de politique juive qui serait transposable, par exemple, celui d'une certaine compatibilité entre, dénié par certains, hein, pas, aussi bien par Eva Illouz que par tenants des mouvements de nationaux religieux en Israël, d'incompatibilité entre le judaïsme et la démocratie.
Moi, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Joël, c'est-à-dire que, et ça rejoint Lévinas, je ne sais pas si c'est pas à propos de Néer que Lévinas dit il faut qu'il reste quelque chose de Strasbourg à Jérusalem. Vous voyez ? Et moi, parce que c'est notre histoire. Donc, moi, je viens du judaïsme d'Alsace, par ma famille maternelle. Après-guerre, ils sont complètement communistes, déjudaïsés, staliniens, tout ce que vous voulez. Et ma fille et mes petits-enfants sont israéliens. Voilà. Donc, à un moment, je m'adresse à ma fille dans ce livre. Qu'est-ce qui reste de Strasbourg, là où tu es ? Alors, elle va en manif, elle fait des trucs, elle s'en fout complètement, hein, ça va t'en rassurer. Elle se demande pourquoi son père passe des années à faire des trucs comme ça. Il y a de meilleures séries sur Netflix. Mais quand même, la question, c'est ça. C'est la question que vous posez, c'est qu'est-ce qui reste de Strasbourg à Jérusalem ? Est-ce qu'il doit en rester quelque chose ? Bon, ça, pour moi, c'est Néer aussi. J'espère qu'on en parlera bien. C'est-à-dire, le judaïsme, on va dire français, bon, a-t-il quelque chose à enseigner ? C'est ça la question. Porte-t-il une singularité ?
Ma réponse... Est-ce qu'il offre une politique, une formulation de la politique juive indépendante du sionisme, c'est pas seulement le souvenir
ou que vous pouvez retrouver dans le sionisme. À un moment, j'évoque, c'est difficile aujourd'hui de parler de lui, mais il y a la question de la galoute, il y a la question de l'exil. Donc, vous avez un débat, j'ai fait une longue note là-dessus, ce n'est pas au cœur du livre, mais vous avez aussi une façon, alors pour aller au bout, je ne vais pas m'interrompre, Günther Anders, c'est un livre que vous avez peut-être lu, qui est assez troublant, qui s'appelle « Ma judaïté ». Et il écrit à son neveu à Jérusalem qui s'appelle David, et il lui dit, David, on est là-bas, c'est bien, laisse toujours la porte ouverte. Ne fais pas de mur, laisse la porte ouverte. Cette question, elle est extrêmement importante, si vous voulez. Si, alors lui, il pense, comme beaucoup, hein, je vous le rappelle quand même, que le sionisme était une idée nationaliste, et que venait du romantisme allemand, en gros. C'était les Juifs, c'est les Juifs assimilés qui avaient reproduit cette idée. Vous avez tout ce débat qui est assez curieux, hein. Oui, mais qui est intéressant philosophiquement, en disant, voilà, vous avez de la terre, un côté heideggerien, bon, très bien. Bon. En face, vous avez, OK, mais même là-bas,
nous devons garder religieusement l'idée de ce que c'est que l'exil. Exil, c'est pas simplement l'exil par rapport à la nation, c'est l'exil de la terre elle-même, c'est l'exil de, etc. Bon. Et donc cette position du juif, qui est la thèse d'André Néer, hein, le juif qui est toujours tiraillé entre son universel et le particulier, entre, et qui doit faire vivre ce tiraillement, entre l'exil et l'appartenance, mais entre la liberté, mais dans le souvenir de l'esclavage. Non, donc dans cette tension permanente, oui, il y a des éléments qui sont, à mon avis, en tout cas transposables, discutables. Le modèle de la République des Hébreux tel qu'il est repris par la République française, c'est un modèle dont on peut discuter, je crois, facilement avec les Israéliens. C'est un modèle politique qui n'est pas uniquement franco-français, ça. La preuve, quand Nelson écrit la République des Hébreux, il n'est pas, vous verrez, il n'est pas du tout, la culture française, elle n'a rien. Ça, je crois que ce moment, ce n'est pas la première fois qu'il est en France. Hein. Donc, c'est pas son truc. Après, eux, ils sont surpris de découvrir, parce qu'ils ont une idée très, je tiens à vous le dire quand même, hein, mais vous le savez, vous êtes pour beaucoup ici plus cultivés que moi sur ces questions, ils ont une vision assez péjorative du judaïsme français. Il faut savoir ça. À cause de ce récit qui, moi... On fait, bon, on le sait mieux quand on vieillit, on fait même les livres abstraits, les livres de philosophie, on les fait avec sa chair, malgré tout, comme dirait Merleau Ponty. Bon. Moi, je vous ai raconté avec honnêteté ma lecture de Marus. C'est-à-dire, on commence par dire non, on dit souvent le petit enfant, il dit non. Le point de départ de cette recherche, c'est de dire je n'accepte pas cette vision de ce qui m'a été transmis. Voilà, je n'accepte pas cette vision de ce qui m'a été transmis. On parlait de Braunschweig, de Cavaillès, je vous ai parlé de Jean-Pierre Vernant. Moi, je viens d'une forme de judaïsme très laïcisée, très politisée, très etc., mais dont je ne conçois pas qu'on en ait cette vision. Bon. Mais quand je parle, par exemple, avec des collègues étrangers, le judaïsme français, d'un point de vue historique, reste quand même, pour beaucoup, c'est cette idée d'un judaïsme qui a été quand même très, comment dirais-je, ababruit, quoi, hein, c'est ça. Un peu... Et je dois vous dire, je ne pense pas du tout... Moi j'insiste sur quelque chose pour rééquilibrer un débat, mais je ne pense pas qu'il n'y ait pas un problème. Il y a sans doute eu des problèmes. Il y a sans doute eu... Les choses sont... Voilà. Mais il y a aussi une autre veine qu'on pouvait rappeler. Voilà. C'est l'interprétation. Il y a des textes qui vont dans ce sens, mais il y en a aussi qui vont dans l'autre sens.
Cette régénération d'un judaïsme politique de cette image, est-ce qu'elle cautionne pas une image maintenant du juif français qui devrait, du citoyen sans terre justement, et de quelque chose qui légitimerait cette image qui est devenue un peu quelque chose dont on sent qu'elle est en œuvre, la loi mosaïque, la loi de l'esprit, être dans ça, trouver une légitimité là-dedans, sans la terre. Et je me posais la question sur justement cette... parce qu'on sent qu'il y a une fracture aujourd'hui qui commence à se penser comme ça.
Chez les Juifs ou chez l'extérieur ? Parce que j'entends beaucoup de Juifs dire la France n'est plus... On s'en va, parce qu'on n'est pas bien en France, ça fait longtemps. Bon, c'est pas notre terre, plus notre terre. Vous pensez aux autres qui disent le Juif est apatride et qui s'en aille.
Cette définition du Juif ne l'ancre pas à Israël. Alors que ça fait partie quand même quelque chose qui précède, qui est là dès le début. C'est ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, elle ne cautionne pas ce modèle, en tant que modèle, justement?
C'est un débat qui est en train de monter, qui m'a dit que c'est très intéressant. Est-ce que tous les Juifs doivent aller en Israël? Est-ce que le judaïsme est aussi...
On peut être juif en exil et dans des nations auxquelles nous appartenons pleinement comme citoyens. Moi, je suis français, citoyen français, c'est pas de problème. Ce débat reprend, on va dire. Est-ce que lui, il est dans le sens que vous dites? Je ne crois pas. Ce sont des gens qui ont une passion de la France et qui ne voient pas qu'il y ait
une contradiction avec, y compris, puisque c'est pour ça qu'il est vu, par exemple, par Carcenti, comme un des premiers sionistes, et que Moses S., donc, qui est considéré, Rome et Jérusalem, comme premier sioniste, le salue aussi comme premier sioniste. Il a des désaccords sur sa vision de Jérusalem, mais on doit retourner à Jérusalem. Simplement, la Jérusalem de Salvador, elle est très curieuse, mais elle existe aussi dans le judaïsme. C'est une Jérusalem qui... Elle est juive, mais elle n'est pas que juive, quoi. Elle est, c'est ce que je vous disais, c'est la Jérusalem aux 100 portes. Donc le judaïsme, par son particularisme, doit être le vrai universel. Moi, je pense que dans l'histoire, ce qui se combat toujours en France, à travers deux conceptions de la République, à travers deux conceptions du rapport entre l'État et la religion, à travers des... c'est un modèle chrétien, un modèle juif. C'est pour ça que je le durcis et que j'aime Salvatore, comme le faisait Néer, d'ailleurs, parce que j'ai un prisme Néer dans ma lecture de Salvatore, qui est de dire, oui, il y a deux modèles. Il y a des gens qui... Moi, je ne renonce pas à l'universel, mais je ne pense pas en être le propriétaire non plus. Et je ne pense pas que parce que quelqu'un a une façon d'entrer dans l'universel, il doit composer avec moi à partir d'un autre lieu, il n'y a pas sa place. C'est cette opposition, si vous voulez, entre ces deux modèles de Rome et Jérusalem qui sont très durcis par Salvador, très durcis par Néer, qui, moi, me semble véhiculer quelque chose qui, politiquement, reste assez juste. J'ai eu l'occasion de dire, d'ailleurs, dans les colloques qu'on faisait à certains amis juifs, j'ai dit, mais en fait, quand je vous entends parler, alors, vous prenez pas mal pour certains, mais j'étais sur le printemps républicain, la laïcité intégriste, qui n'a jamais été la laïcité républicaine française, il faut être très ignorant pour... Je disais, mais faites attention, j'entends un discours que j'ai très bien connu chez les ultra-cathos, et d'ailleurs, les gens dont vous me parlez, en réalité, certains ne sont jamais allés à l'école publique, et vous verrez, ils n'aiment pas les juifs à la fin. Ne vous laissez pas embarquer dans cette affaire-là, parce que beaucoup de gens sont embarqués avec sincérité. Il y a eu le problème des attentats et d'autres difficultés avec la communauté musulmane. Mais c'était vraiment une espèce de laïcité intégriste, des nouveaux inquisiteurs, une orthodoxie. Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Et on peut être pleinement soi-même sans tomber justement là-dedans. Et je pense que les juifs apportent au monde, alors, ce que Nicolas disait tout à l'heure, est un vrai trouble dans la judaïté, c'est-à-dire la modernité. C'est le livre de Carcenti, la question juive des modernes. Elle est aussi cette question que reprend Dominique Schnapper, d'ailleurs, dans ses travaux, qui est qu'en fait, la modernité, on peut nous en vouloir, parce que si on va dire... j'ai fait une émission avec Pierre Nora, alors là, heureusement que... Mais il va y avoir... Vous ne l'avez pas vu, c'était une catastrophe. Et donc, on était invité par Émile Mallet, vous l'avez vu?
Non.
Et la question, c'est qu'est-ce que les Juifs ont apporté à l'Europe? Ça, je pensais bien qu'il ne fallait surtout pas faire cette question dans un truc... Et Nora démarre en disant la peste. Oh, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, il dit, bah oui, Marx et Freud. Et il ajoute après, c'est très bizarre. Ce ne serait pas été lui, honnêtement, ça se passait très mal. Non, mais il rajoute, surtout dans ces situations, et beaucoup de délinquants sexuels. Hein? Il est très âgé. Merci de l'avoir dit. Mais enfin, je peux vous dire que Émile Mallet, qui avait invité, il y avait aussi Pascal Horry. On a ramé, hein. C'était vraiment... Bon, donc, moi, je pense que le débat actuel, il est aussi de reprocher aux Juifs toutes les tares de la modernité. Vous voyez, ce qui est en train de se produire et ce à quoi on assiste, et dans le fond, ce discours est ambivalent. C'est-à-dire, alors, le libéralisme, la démocratie, je n'aime plus la démocratie. Alors, vous dites, c'est la démocratie, oui, mais on n'aime pas ça du tout. La période illibérale, la tolérance dont on parlait tout à l'heure, là, tout le monde veut de l'autorité, là, l'impérium doit revenir, etc. Donc, à un moment, il y a aussi un anti-judaïsme qui est une espèce de crise de la modernité, comme disait Arendt, une espèce de défiance à l'égard de la modernité qui va se porter et se figurer sur le juif, ça, je pense. Sur la question du... Alors, peut-être le nomadisme. Peut-être cette idée que, aussi, cette façon, aujourd'hui, cette mondialisation, etc., c'est juif. Bon. J'ai l'impression d'avoir pas répondu à votre question, en fait.
Le truc, c'est de pouvoir... Voilà. Israël ne doit pas exclure l'universel. Les Juifs n'ont jamais vu. Mais
je parle de ce modèle, est-ce qu'il ne va pas cautionner quelque chose qui justement va faire de la radicalité
Le modèle de Moussa Dadaour, c'est une très bonne question. Moi, je ne le vis pas comme ça, mais peut-être parce que je suis un vieux socialiste.
Je ne l'ai pas lu, donc je sais pas
si. C'est possible. Parce que moi, un petit âge d'éther, c'est vrai, quand je parle avec des gens très riches, je suis un peu la remise des dettes, je ne peux pas dire. Mais moi, j'ai fait exprès, je suis un provocateur. C'est le futur. Donc,
c'est ce qu'on a lu ce Shabbat.
Hein ? Voilà,
oui, c'est ce qu'on a lu ce
Shabbat. Joël, dans certaines réunions, puisque parfois j'assiste, les donateurs, ils sont les gens qui sont les.
C'est le prochain.
Vous savez, quand tu as 300 millions d'euros de côté, tu pourrais donner 5000 balles à un pauvre universitaire. Et là, je lui rappelle les textes. Je m'en invitera à Shabbat, je ferai le commentaire. Donc, c'était aussi une provocation, parce qu'il y a quand même quelque chose de ça aussi, qui compte aussi pour la communauté, quand même, cette question de justice. C'est quelque chose, de, pour moi, fondamental. Et je pense, vous savez, il y a plein de discussions là-dessus, vous êtes un spécialiste de ça. Mais quand même, ça a été une vraie question. Non, mais... C'est une vraie question de savoir pourquoi les Juifs se sont tellement engagés dans ces mouvements de gauche, voire d'extrême-gauche, hein, souvent, etc. Et ont été à la pointe d'un certain nombre de ces combats, avec les erreurs, d'ailleurs, historiques que certains ont pu commettre, bien naturelles, mais quand même, je crois que c'est porté.
Hein? Je répète deux fois dans le texte de Torah, c'est Tzedek Tirdof. À deux reprises, on emploie le terme la justice, tu la poursuivras.
Bien sûr. Et lui, c'est une lecture comme ça, hein, ça va. C'est vraiment intéressant. Hein. Ces commentaires, d'ailleurs, par rapport à votre Moïse, parce que faut, pour vous, la loi de Moïse de Salvator, c'est vraiment... Et lui il dit, je suis mosaïste, c'est-à-dire il est juif, hébreu, mosaïste. Et c'est cette vision-là, avec un très gros contenu social et économique.
Bernard.
En écoutant tout ça, il y avait pour moi trois résonances ou trois questionnements. Alors le premier, c'est le livre de Goodhart sur les gens de partout et les gens de quelque part, en me disant justement, finalement, c'est pas la continuité d'une certaine manière, ou en tout cas le questionnement de la modernité actuelle. La deuxième résonance... on a parlé beaucoup de l'Allemagne, de la France, et je me posais la question du judaïsme britannique dans tout ça. Quelle avait été sa place, s'il a une place finalement. Et puis la troisième résonance, c'est finalement c'est ce qui est justement antérieur à Spinoza, c'est-à-dire la communauté des Juifs portugais à Porto, très intégrée dans la société. Alors, les Juifs portugais de Porto, c'est très différent des Juifs espagnols. C'est autre chose. Donc, très intégrée dans la vie sociale, dans la vie politique, et puis, justement, remis en cause à un moment par l'Inquisition qui vient les percuter. Donc, voilà, c'est des choses qui, pour moi, résonnaient au moment où j'écoutais tout ce qui était dit.
La question du judaïsme, oui, en fait, pour certains qui se font plus compétents que tout le monde, mais pas le. Mais à ce moment-là, il y a peut-être des champs. Il y avait des personnages très importants politiques juifs anglais où ils sont.
En Israël ?
Oui. Non, c'est avec Israélites qui partent pour l'affaire.
Ah oui, Montefiore.
Ouais, Montefiore.
Moses Montefiore.
Mais j'ai l'impression quand même que je connais pas bien cette histoire, donc je peux pas te répondre, Bernard. Sur les résonances avec ce qui précède et l'histoire des Juifs portugais, c'est très compliqué parce que depuis tout à l'heure, vous êtes sur l'idée. Est-ce que ces Juifs, dans le fond, vous posez la question de savoir si Salvador était bien en France, j'ai l'impression. S'il était, de quelle façon il considérait que c'était sa terre.
Non, ce que je veux dire par là, c'est dans ce côté, finalement, du judéo-républicanisme, d'une très forte insertion dans la communauté. C'est ça ce que...
Moi, j'ai l'impression qu'après le débat pour ce qui est de la période qui suit, qui n'est pas la même, c'est le débat que vous avez très bien vu vous-même et soulevé. C'est-à-dire que le point de vue que nous donne Salvador est un point de vue de quelqu'un. C'est d'ailleurs comme ça que le traite l'historien grec, l'historien israélien. Il dit un juif de la périphérie. Il dit c'est quelqu'un qui n'est pas dans le judaïsme. C'est quelqu'un qui est à la périphérie. Et c'est ce qui lui donne sa force philosophique. Il n'est pas dedans. Il n'est d'ailleurs nulle part. Il n'est pas dedans là, il n'est pas dans l'université, il n'est pas dans la politique. En 1830, il lui propose d'entrer, puisqu'en fait, les libéraux gagnent, c'est ses copains. Il ne veut pas. Donc, il n'entre jamais dans rien. Et il tranche son... Donc, moi, je n'ai pas la réponse à ça, parce qu'il y a aussi, on voit bien le conflit juste, que vous dites plus fort que je ne l'ai dit avec Ben Amozeg. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est toujours très apprécié, on va dire, de tout le monde. Hein, donc, c'est un point de vue... qui avait disparu, il faut bien le reconnaître, qui est assez fort et qui a une forme, je dirais, d'actualité et en tout cas nous permet de répondre à plusieurs questions et en particulier de donner une consistance au judaïsme français et à une doctrine du judaïsme français. Maintenant, le fait qu'il ait vécu, par exemple, je pense qu'il n'était absolument pas observant, je pense qu'il n'allait jamais à la synagogue, je pense qu'il était sans lien quasiment avec la communauté juive. Hein ? Comment ? Oui, mais lui, il a été visiblement, il a été complètement. Il se considère, c'est pas très clair, mais il le revendique. Il y a très peu de types qui écrivent dans son dans Paris, Rome et Jérusalem. Il dit j'ai été circoncis. On lui demandait pas, franchement. Donc il est dans... Hein ? Non, non, mais il a étudié avec son père. Ah non, non, il est élevé par son père dans... Mais d'ailleurs, il y a maintenant des livres, ils sont très intéressants, hein, sur le judaïsme de Montpellier. D'abord, moi, j'ai été sidéré de voir que c'est une communauté qui était aussi faible. Mais c'était extrêmement... Ben, là, vous avez l'exemple. Parce que les mariages mixtes, pour moi, c'était très tardif. Là, vous avez les mariages mixtes qui sont assez naturels, hein, plusieurs, au début du 19e siècle. Alors que, bon, moi, par exemple, dans l'histoire que je connais, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y en a pas avant. Donc là, vous avez un schéma qui est quand même très particulier.
Au risque d'avoir mal saisi, j'ai cru comprendre dans votre exposé que vous avez relevé le peu de contribution des Juifs français, en fait, à cette histoire. Et je suis un peu étonné parce que, à la lecture d'un des derniers essais de Pierre Birnbaum sur les deux maisons, il dit que, enfin, de façon un peu manichéenne, qu'autant les Juifs américains se disent d'abord américains puis juifs, autant les Juifs, alors je ne sais pas si c'est les Juifs français ou les Juifs européens, sont d'abord français, sont d'abord juifs puis français. Ce qui me donnera à penser qu'ils auraient peut-être été un peu plus concernés par ce genre d'enquête et de rédaction d'œuvres à cet égard.
Je vois très souvent, si vous dites dans une réunion, moi je suis aussi un homme politique pour les gens en tout cas, pour moi je ne sais pas, mais si je dis ce que je dis là, ça, c'est choquant. Vous êtes d'abord français, ensuite juif. Et beaucoup de juifs, dans des moments institutionnels, me reprennent quand maintenant je dis juif et français. Donc ça reste un point de tension extrêmement fort, y compris dans la communauté. Maintenant, Birnbaum va préfacer le prochain bouquin d'Isalef. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Birnbaum, qui a fait un travail extraordinaire depuis 1990? C'est que lui, il a lu nos anglo-saxons, il ne s'est pas emmerdé à les traduire, il avait son œuvre à faire, mais il reconnaît que... D'ailleurs, si vous regardez un des premiers textes, c'est... Le texte qui est publié à Sciences Po, ça doit être 92, Histoire politique des Juifs, c'est un ouvrage collectif dans lequel il met l'historien Albert, etc. Il s'est nourri de l'historiographie américaine. Il s'est nourri de l'historiographie. Pardon ?
Il enseignait
avant. Oui, il s'est nourri, il les connaît par cœur. D'ailleurs, ils m'aident beaucoup à les retrouver, à les appeler, à leur téléphoner, à leur mettre des mails, etc. Parce que il a noué, y compris avec eux, des relations amicales. Et il est très, très savant sur cette histoire. Il est d'ailleurs un des premiers, mais dans le fond, ça avait été ce changement d'historiographie à l'époque de Cohen Albert, qui justement commence à dire, mais les anglo-saxons ont commencé à dire, Non, non, c'est pas uniquement il baisse la tête, il rase les murs, etc. Il y a une façon très particulière, d'ailleurs le grand livre là que j'ai fait traduire, maintenant il est en librairie, hein, de Cohen Albert, il montre très bien qu'il y a vraiment un chemin singulier des Juifs qui ne renoncent pas à leur judaïsme et qui rentrent dans la République française tout en étant juifs. Donc c'est pas on s'évapore. Vous vous souvenez le texte d'Isa Berlin était terrible sur je cache ma bosse, quoi, et je fais semblant de pas en avoir, etc. Donc c'est une vision extrêmement brutale de ce que peut être l'assimilation des Juifs. Là, non, c'est pas ça. On peut être citoyen français, voire engagé. C'est l'exemple que je prenais de Léon Blum. J'espère que ça va se développer dans les années qui viennent, cette lecture de Léon Blum. Mais je suis juif et je suis sioniste. Et je me heurte comme juif parce que ça existera toujours et ça existe à l'antisémitisme. Si vous voulez. Pour un juif, d'ailleurs, c'est une véritable question. Ça a toujours été une véritable question. Pierre Moscovici va sortir un livre chez Gallimard à la rentrée où il rappelle cette question. Quand vous êtes un homme politique juif de premier rang, la question se pose de savoir si vous pouvez être président de la République. Nicolas Sarkozy avait eu le courage d'évoquer les ascendants. On parle lui-même, mais quand même, c'est une des premières. Le Métèque, il le disait lui-même. Bon, c'était plutôt c'est pas très sarkozyste, vous le savez, mais c'est plutôt chose qui m'était sympathique, mais je dois dire que même Dominique Strauss-Kahn, au moment avant les histoires, se posait sérieusement la question de savoir ce qu'allait déclencher, et un certain nombre, il faut que vous le sachiez, de grands responsables, y compris juifs, avaient plutôt tendance à conseiller aux hommes politiques juifs, ils sont peu nombreux, de premier plan, de ne pas aller trop loin pour ne pas nous provoquer dans le pays des réactions... Christiane Taubira m'avait dit, on peut transposer ça un jour, elle est plus intelligente que ce que certaines personnes ne le croient, elle me dit, je ne serai pas candidate à la présidentielle quand tout le monde est, etc. Moi, voilà, on a vu le résultat, elle s'est bêtement laissée convaincre, elle est la première à le payer, mais parce qu'elle avait une claire conscience, elle dit, je suis la seule peut-être qui peut faire aider un Front National aujourd'hui. Parce que le regroupement... Donc il y avait cette question, et il y a toujours cette question dans le milieu juif, très politisé, mais lié aux instances religieuses, où les gens... Et même Israël intervient dans ces questions, de se dire est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus astucieux, étant donné le climat général, de mettre quelqu'un qui... Parce que, tous les présidents, au bout d'un ou deux ans, de toute manière, qu'on les aime ou ne les aime pas, leur cote de popularité baisse un peu. Donc si en plus vous fournissez le prétexte du judaïsme... Voilà. Donc c'est une vraie question. Et Léon Blum va très loin quand même. Faut imaginer... Je trouve que les gens ont peu de mal sur les choses... C'est le fameux nez au milieu du visage, quoi. Hein. Le type, il est Premier ministre de la France en 36. 36, c'est pas rien. Hein. C'est une époque particulière, quand même. La France se donne comme Premier ministre un juif. Et il n'y a pas beaucoup de pays, regardez, autour de la France, qui ont fait ça. Et c'était déjà vrai. Donc on a une histoire singulière.
Oui, c'est lui les congés payés. Oui.
Pareil. Mais dans le contexte général, comme ça... C'est quand même, avec le recul d'aujourd'hui, moi, je suis stupéfait de ça. C'est-à-dire, quand je découvre... C'est bien Blum, d'ailleurs, je crois, dans son livre, il insiste beaucoup sur le judaïsme de Blum, le petit bouquin, là, le dernier qu'il a fait. Hein. À la fin, il insiste beaucoup sur le judaïsme de Blum. Et là, je découvre qu'il y a le kibbutz, qui est en Galilée. Donc, j'y suis allé. Je dois dire, vous avez la sculpture de Blum. Voilà, c'est un peu... C'est un grand kibbutz, mais un peu triste, maintenant. J'ai peur des chiens, moi. Il y avait beaucoup de chiens. S'approcher du... Mais c'est quand même incroyable de voir ça. C'est quand même incroyable de voir ça et de voir qu'il l'a totalement assumé. Alors que même aujourd'hui, moi, je vois la pesanteur. C'est moi, j'ai été attaqué. Quand ma fille était en Israël, j'ai été attaqué à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas été défendu par personne. Hein. Tout le monde s'en est foutu. Les gens ne savent même pas. Il y a des types qui posent des questions. Votre fille, elle travaille en Israël, etc. Hein. Ministre, je suis troisième numéro 3 du gouvernement français. Je suis attaqué à l'Assemblée nationale par une droite républicaine qui sort ça sur les réseaux sociaux, sur les machins. Il a appelé ses enfants Élie, Isaac, machin, etc. On est dans un climat quand même qui est. Mais le type, c'est pire. Lui, il sort de l'Assemblée nationale. Ils l'ont laissé pour mort.
Les canaux du roi.
Ouais. Et il continue. Et il assume. Les donneurs de leçons. Hein.
Pourquoi la phrase de Bertolt Brecht reste toujours d'actualité et le ventre est encore fécond, d'où est sorti la bâtiment? Parce que même si c'est larvé, si c'est plan, s'il n'y a pas de diffus majeur, ça reste toujours latent.
Oui, mais alors, d'une certaine... Moi, je pense totalement, mais je pense pour... La question pour nous, c'est pourquoi ? Donc, c'est pas une question... Oui, mais donc, ça veut dire qu'on représente... que le judaïsme, on va dire, représente quelque chose. Et du point de vue des grandes options humaines, je suis sur cette thèse lévinassienne, néerienne, salvadorienne, de rappeler toujours l'altérité, ce besoin-là, de développer ces idées dans cette autre façon de penser l'universel, parce que c'est ça, quand même, l'attention du juif et de l'hébreu, me semble être un message qui est très, très mal vécu par tous les gens qui ont des tentations hégémoniques, totalitaires, obscurantiste, etc. Et donc que le juif vient figurer quelque chose éternellement dans l'histoire, avec ses adeptes d'ailleurs, il y a les judéophiles, mais il représente, et donc Athènes, Rome, Jérusalem, tout ça sont des choses qui sont vivantes, qui disent quelque chose et qui à un moment, malheureusement on peut dire, mais s'incarnent tragiquement dans l'histoire. Mais ce sont des grandes options. Et je dois dire que ce qui m'avait séduit, tellement plus, hein. Mais pour moi c'est suffisant, ça me nourrit, et puis c'est ça que j'essaie de transmettre, parce qu'on écrit des livres pour transmettre, c'est cette opposition, c'est-à-dire le fait que Salvador, il assume pleinement. Le type, il dit, je suis juif, je suis pas chrétien, je cherche pas à m'arranger avec vous. Il faut voir le dialogue, il dit, je vais vous faire avaler cette pilule, vous allez la bouffer, mes vieux. Vous allez, je vais vous le faire. Ouais, vous allez la gober, il y a quelque chose à gober dans le judaïsme, je vais vous le faire gober. Et ces dialogues avec les catholiques libéraux, Montalembert, la lettre avec Montalembert est incroyable. Parce qu'on voit comment il se détourne de lui. Et en réalité, c'est toute l'histoire, Jules Isaac et après-guerre, enfin, des choses que vous connaissez très bien. Quand le juif assume pleinement son judaïsme, si le juif est conciliant, si le juif dit on est un écuménique, etc., moi, on l'avait eu dans le colloque, à un moment, dire non, je ne suis pas ton copain. Pourquoi je serais ton... C'est pas si simple. Je suis pas copain comme ça avec toi. Parce qu'il s'est passé 20 siècles de choses terribles, il s'en passe encore, et c'est pour des certaines raisons. Donc je n'efface pas l'ardoise magique, et je discute du fond.
C'est marrant, parce qu'il y a une opposition plutôt du côté tradition juive, mais je parlerai pas, je ne sais pas, mais on parle de Joie Mosaïque, comme si on pouvait occuper tout ce qui est la morale, et notre identité en tant qu'entité théologique, on a alors ce que dit a priori Aristote, ce côté-là, je vais vous faire gober ce que c'est le judaïsme, et il n'y a pas de syncrétisme, notamment pas imposé. C'est ce que dit le Talmud, c'est-à-dire que le mont Sinaï, les sages du Talmud vont, par un aphorisme très très connu, hein, que même les enfants savent, c'est que c'est Lachon Sina, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que cette montagne a été élue pour recevoir la loi de Moïse, c'est parce qu'en elle-même, dans son étymologie, elle porte, Sina en hébreu, c'est la haine. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, au même moment où le peuple juif va terminer les deux tiers de ses agitations, parce que une des idées qui s'entrechoquent là, mais parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Ça relève, on en parlait avec Philippe, beaucoup, beaucoup de cours de Torah qui parlent de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que le peuple juif, enfin, qu'est-ce que le judaïsme ? C'est à la fois une loi, un peuple et une terre. Et lorsqu'on va nous donner la Torah sur le mont Sinaï, au même moment, simultanément, on va faire naître une haine inextinguible, de toutes les autres nations qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est cet universalisme qui ne va spécifier qu'un micro-peuple dans un désert abandonné, dans une zone qui est finalement pas la plus riche, pas la plus développée à cette époque, on est plutôt en Extrême-Orient où ça commence déjà à travailler davantage. Lachon Sina, c'est ce langage-là de haine, il est propre à ce mosaïsme. Mais cet enseignement-là, il ne vient pas de Moïse. Cet enseignement que je viens de répéter, que tout le monde connaît ici, il vient des sages du Talmud. C'est-à-dire qu'on dépasse bien, on est bien au-delà du mosaïsme. On est dans la loi orale. Et en fait, j'ai l'impression je pense que si, quand même, parce qu'il a une éducation juive apparemment, mais je ne sais pas pourquoi il se limite au mosaïsme. Alors qu'en fait, il propage, sous d'autres termes, un enseignement du Talmud. Et donc, ça veut dire, enfin, finalement, c'est une vision très dépressive. On ne réglera jamais le problème juif. Tant qu'il y aura quelqu'un pour étudier la Torah, on alimentera ce feu de haine des autres nations qui ne comprennent pas et qui refusent, pour des bonnes raisons, j'allais dire logiques, cet universalisme particulier, c'est-à-dire exclusif. Et c'est un peu ce que vous formulez. Enfin,
pense que l'universalisme
juif accepte l'idée que les autres, d'abord, peuvent garder leur singularité et s'inscrire dans un universel. Et je pense que dans l'histoire, c'est quand je regarde les grands moments d'opposition avec les Juifs, où les Juifs vont devenir bouc émissaire, c'est les moments où des gens ne veulent plus le Troisième Reich, c'est-à-dire avec Joachim de Flore, cette idée de l'évangile du Troisième Temps, etc. C'est-à-dire que là, tout le monde doit aller dans le même... Rome, tout le monde doit aller dans sur le même modèle. Et toutes ces périodes très prosélytes, où un universel veut s'imposer à toutes les autres différences, sont les périodes où le juif devient l'emblème de l'universel qu'on ne veut pas. C'est ma lecture. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais en tout cas, parce que sinon on a toujours la tension. Au début, vous dites, voilà, c'est un universel qui part d'un particulier, mais après vous dites, il est exclusif. Moi, je ne crois pas que la culture juive soit exclusive. Je pense que nous portons justement l'idée, pas très nombreux, 10 millions, 20 millions, mais que les autres ont leur place, qu'ils peuvent penser différemment. Que je n'ai jamais vu qu'on veuille imposer aux autres cette façon de penser, ou cette façon d'être, ou ses croyances, etc. Il y a des religions qui font des croisades, il y a des religions qui font des autodafés, il y a des religions qui font etc. C'est pas la culture juive. Donc c'est un autre modèle universel. Et je pense que en fait c'est pas rien cet autre modèle universel. Il perturbe.
Alors, il y a pas une seule porte d'entrée.
Singulier, je dirais. Dites singulier peut-être.
Ouais, singulier, voilà.
Singulier. C'est très différent.
Oui,
je pense que c'est singulier. Ouais. Et je pense que c'est l'universel singulier est une des choses que que la bêtise n'accepte pas. Il faut être très intelligent pour comprendre l'universel singulier. Très ouvert, très, je dirais presque philosophe et même mathématicien pour comprendre l'universel singulier. Les gens, ils veulent un universel, c'est un égal un. Et nous, on n'est pas dans le contraint, mais quand même un petit peu dès le départ. On est dans ce qu'on disait, l'altérité, la différence, l'étude, l'argumentation, l'échange. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de gêne quand je parle de ces livres. C'était pareil, j'ai eu le même problème avec Buisson. J'expose un truc et on croit que c'est ma pensée. C'est-à-dire, l'amitié pour Salvador au fait qu'il faut un engagement. Mais en même temps, je ne pense pas que Salvador, ce soit une dogmatique, une théologie. Il n'y a pas de théologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un point de vue qu'on rajoute à une somme de points de vue et dont on peut débattre. Comme tout à l'heure, on peut avoir un point de vue différent sur Hannah Arendt. C'est tout le problème de l'interprétation. Je ne crois pas que ce soit... Bon. Cette façon de faire, il y a des gens qui pensent non, il y a des gens qui cherchent, à savoir le dogme. Il y a des religions, elles ont des théologies, elles ont des prêtres, elles ont des dogmes. Et elles font des inquisitions. Je crois que nous sommes préservés de ça, et que être préservé de ça, c'est aussi introduire dans l'histoire quelque chose qui, à un moment, gêne ceux qui aiment les dogmes, les inquisitions, et donc ça frotte. Ça frotte terriblement.
Je ne vais pas alourdir sur le temps. Je voulais dire à quel point j'apprécie vos analyses et surtout les caps. Excusez-moi. Je dis à quel point j'apprécie vos analyses et les caps. Et j'étais interpellé par deux choses chez vous. C'est de qu'est-ce qui restera de Strasbourg à Jérusalem. Et vous l'avez dit sans vous en rendre compte. C'est que vous avez parlé des gens qui écrivent des livres sans parler de ceux qui disparaissent. C'est-à-dire, cette présence du pas visible, c'est très juif, puisqu'on vit avec Dieu qui est exactement dans ce schéma. Et lorsqu'on parle de Jérusalem, nous, on parle de Sion. Et donc, les peuples parlent de Jérusalem avec deux niveaux de compréhension de Jérusalem. Mais quand on est dans un... moi, je fréquente les autres religions assez souvent et dans des niveaux assez élevés. J'ai un plaisir énorme à participer à ce colloque ce soir où on entend des juifs réfléchir, des juifs philosopher, et on peut philosopher sans être religieux. C'est ça la liberté du truc. Et l'appartenance à une terre, lorsqu'on est juif, elle est très forte. Maïmonide, pour définir un juif, pour installer le... Il disait, qu'est-ce que c'est un juif? Alors les gens, ils ont dit, Maïmonide, il va dire une barbe, une kippa, un kippa et un chapeau, cachère, synagogue. Il a dit, Il faut que ça soit c'est quelqu'un à côté de qui c'est agréable de vivre et c'est enrichissant. Intellectuellement, d'abord, et peut-être économiquement. C'est-à-dire sa place... Non, mais sa place l'importance. Et je voudrais citer simplement, puisqu'on a cité énormément de livres, c'est que l'attachement du juif avec la terre dans laquelle il a vécu, il y a Cervantes qui a écrit « Le dialogue des chiens » que tout le monde connaît, et c'est, pour rappeler, c'est quelqu'un qui est devenu fou et puis qui parle avec deux chiens, tout d'un coup il se rend compte que les chiens parlent le langage des hommes. Il lui demande « Mais pourquoi tu es devenu fou ?» Il lui dit « Mais parce que ma femme qui était très belle, avec qui je suis sorti de partout, j'étais reçu, tout ça, elle m'a lâché, elle m'a jeté, et je suis devenu fou. » Et Cervantes, il a écrit en 1535, je crois, le dialogue des chiens. Il y a 27 ans de ça, à l'université de Salamanque, ils ont réfléchi, ils ont dit « Mais le salaud, il a parlé de l'Espagne qui a jeté les Juifs. » Il leur a fallu presque 5 siècles pour savoir que Cervantes est en train de parler de sa douleur. C'est-à-dire que quand un Juif part en réflexion et va chercher s'élever... Alors évidemment, on a parlé de l'universalisme, il faudrait parler des 360 degrés de la vision des Juifs. Et surtout, il faut parler aussi de l'utilité de l'étude, puisque une dame a parlé de l'étude, et vous-même, c'est vrai que vous avez parlé de l'étude de la Torah. C'est que, regardez sur un débat qui est tout à fait moderne, qui est de ces semaines-là. Dans la Torah, on parle à l'heure actuelle d'une approche non pas responsable, mais on parle d'une approche raisonnable des choses, qui est une différence totale. Prenez dans l'agriculture, à l'heure actuelle, on veut une agriculture responsable, mais elle n'est pas raisonnable, parce qu'on impose à des gens sans réfléchir de par ailleurs. Les Juifs, nous avons une partie de la Torah qui est appelée, je parle sous la direction de mon ami, il faut qu'il y ait un juif, il peut vivre dans n'importe quelle ville, mais à condition qu'il y ait des juges et des tribunaux. Synagogue, on verra plus tard. Kasher, on verra plus tard. Mais il faut qu'il y ait des tribunaux et de la police. Donc, on s'est posé la question, c'est Maïmonide qui pose la question. Il dit, mais la police, pourquoi? Parce qu'on est en train de parler des livres de la Gemara qui ont été écrits il y a 2000 ans. Les agglomérations n'étaient pas très importantes. Et en plus, les gens ne voyageaient pas. C'est-à-dire, si je suis policier dans une ville, la ville est petite, c'est un petit village, et j'ai toutes les chances de savoir que lui, c'est mon cousin, et l'autre, c'est mon oncle, etc. Qu'est-ce que fait un policier dans une ville? Et ils disent, le travail d'un policier dans une ville, c'est de voir que ceux qui vendent au poids respectent le poids, et les prix. Alors il dit, pour le poids, celui qui triche sur le poids, alors il a une amende. Et celui qui triche sur les prix, il a une amende et on le frappe. J'arrête, il y a une erreur dans l'approche. Et pas du tout, parce que celui qui vole sur le poids, il a volé à quelqu'un qui avait l'argent pour acheter la viande, par exemple. Seulement, celui qui vend trop cher a la faute de faire qu'en fin de compte, le pauvre ne peut pas acheter ce dont il a besoin. Et on est en train de parler du pouvoir d'achat qui taraude tout le monde. Et Leclerc, il prend la parole de tous les côtés. Et pourtant, les Juifs, on en a parlé. On a dit, le plus important, c'est de savoir que celui qui n'a pas les moyens puisse avoir accès à ce dont il a besoin. Et je pense que ce côté pragmatique, mais qui est la réflexion, parce que moi, j'adore entendre les Juifs réfléchir, philosopher, et même à contre-courant de la Torah. Mais c'est extraordinaire parce que c'est cette liberté. Je peux vous dire que si vous êtes musulman et on vous trouve à l'université du Caire, pour ne rien vous cacher, si on vous trouve avec un livre de philosophie, vous êtes viré, plus tabassé. Il y a à l'entrée scolaire 2022 à Alger, il y a une professeure en philosophie qui s'appelle Naïma Abdelrahim. Elle avait 117 élèves inscrits. Pour la première fois, son amphithéâtre était plein. Au début, quand elle a commencé à donner les horaires de la semaine, il y a un religieux qui est rentré. Il dit, celui qui étudie la philosophie crache sur le visage du prophète. Elle s'est retrouvée avec 3 élèves en 5 minutes. C'est pour dire que la liberté que le judaïsme permet en restant juif, tout en philosophant et en amenant la philosophie, en amenant des idées, c'est quelque chose de... Tout à l'heure, vous avez parlé de singulier, peut-être que c'est quelque chose de distinct. De distinct.
Révolutionnaire.
C'est peut-être révolutionnaire.
Un peu de philosophie.
Une petite remarque à propos de l'université. Vous posiez la question, qu'est-ce qu'il y a à Strasbourg, à Jérusalem, de Strasbourg ? C'est une photo de la cathédrale.
Oui, qu'est-ce qu'on vous ramène là-bas ?